Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach personnelle et professionnelle et je suis tout simplement ravie de vous accueillir ici. Le principe de ce podcast est simple. Dans la première partie de l'épisode, j'interviewe des personnes connues ou peu connues qui ont tous un point commun, celui d'avoir une histoire de vie à raconter. L'objectif est de partager avec vous leur parcours, leur expérience, leur vécu, qu'il soit personnel ou professionnel, et qui, je l'espère, sera inspirant pour votre propre histoire de vie et vous apportera peut-être un éclairage nouveau sur votre situation. Dans la deuxième partie de l'épisode, je partage avec vous une clé. Une clé, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil un peu plus théorique, un outil pratique, concret et accessible que vous allez pouvoir utiliser selon vos besoins, à votre guise, pour vous permettre de mettre en application le thème de l'épisode et de l'interview. En résumé et pour faire court, l'objectif de ce podcast est qu'à la fin de chaque épisode, vous repartiez avec une histoire de vie inspirante et un outil concret, tout ceci sur le thème du développement personnel. Sans plus tarder, je vous propose aujourd'hui d'écouter mon premier invité. Il s'appelle Benoît Dolez. C'est un sportif de haut niveau, mais je ne vous en dis pas plus, je le laisse se présenter. Quant à moi, je vous retrouve juste après cette interview en solo pour vous présenter la clé du jour. Bonjour Benoît.
Bonjour Catherine.
Mais écoute, bienvenue sur le podcast.
Merci.
Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
Moi aussi.
Bah écoute, merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te poser une première question. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter simplement, nous dire qui tu es, d'où tu viens et puis ce que tu fais ?
D'accord. Donc, je suis Benoît Dolez, j'ai 43 ans, je suis marié, je suis professeur de PS.
D'accord.
Je viens de la Somme.
Ok.
Et j'ai fait mes études à Reims et je suis restée sur Reims, voilà.
D'accord, ok. Par rapport au sport, justement, tu me dis que je suis prof de sport, mais je crois savoir que pas que, finalement. Qu'est-ce que tu fais d'autre
oui,
en parallèle ?
Je suis sportif entre guillemets de haut niveau parce que je suis vétéran, donc quand on est vétéran, on n'est pas considéré comme sportif de haut niveau.
Ah, d'accord.
Mais je fais partie de l'équipe de France de roller.
Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste faire partie de l'équipe de France de roller ?
Alors moi je suis spécialiste des longues distances, marathon, donc on court, on roule pendant 42 km comme un marathon en course à pied. Et mm-hmm. Le but du jeu, c'est la même chose, c'est finir dans les premiers, faire la meilleure place possible et voilà.
D'accord, bon. Et comment tu en es arrivé à pratiquer ce sport ?
Alors là, c'est un concours de circonstances parce qu'au départ, je suis footballeur et à un moment donné, j'en ai eu un peu marre du foot. J'ai cherché un nouveau sport. Je suis tombé sur le short track qui est un sport de vitesse sur glace. Mm-hmm. Donc, c'est dans une patinoire et le but du jeu, c'est pareil, c'est d'aller le plus vite possible et de faire une certaine distance.
Mm-hmm.
Et puis, pendant une séance de short track, j'ai rencontré un ami qui est... une personne qui est devenue un copain, qui s'appelle Christophe. Et puis, un jour, on s'est lancé un pari en se disant, voilà, on fait un peu de tout ensemble, plein de sports, du vélo, etc. Est-ce qu'on pourrait pas se focaliser sur un seul sport qu'on apprécie tous les deux et puis viser peut-être l'équipe de France ?
Mm-hmm.
Et puis, il s'est tombé sur le roller parce que Christophe est issu du roller. Moi, j'en faisais un tout petit peu, mais beaucoup moins que lui, pas en compétition en tout cas. Et puis, au bout d'un an et demi, on a réussi à avoir notre première sélection d'équipe de France.
Mm-hmm. Wow. Bon, alors ça, on va en parler un petit peu plus tard pendant l'interview, mais justement, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours ? Là, tu viens de me dire, à la base, j'étais footballeur, j'ai fait pas mal de sport. Effectivement, c'est quoi ton parcours de sportif ? Qu'est-ce que tu as fait comme sport dans ta vie ?
Alors moi, j'ai pratiqué énormément de sport. Après, en compétition et en club, j'ai commencé par le foot et j'ai fait longtemps du foot. Comme tous les petits garçons, je voulais devenir footballeur professionnel. Mmh. La vie a fait que c'était compliqué, on va dire, au niveau social. Donc, j'ai pas pu... atteindre ce but-là, mais j'ai quand même joué à un bon niveau. Et puis, je faisais beaucoup de courses à pied, je pratiquais tous les sports à l'UNSS, au collège et au lycée, avec des très bons résultats. Donc, je suis assez polyvalent, en fait. Et je ne me suis jamais vraiment spécialisé, à part dans le foot au tout début, mais sinon, je ne me suis jamais vraiment spécialisé. Alors, je fais du vélo, de la course à pied, du VTT, du vélo sur route, du snowboard, de la planche à voile, des sols élastiques. Enfin, j'aime tout, en fait.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport ? T'as commencé très tôt, en fait, c'est ça, si je comprends ? T'as commencé à quel âge ?
Alors, le sport, c'est vraiment un truc important dans ma vie.
C'est toute ta vie ?
Je ne pourrais pas dire à quel âge j'ai commencé, mais en fait, j'ai fait beaucoup de sport parce que c'était un échappatoire pour moi.
D'accord.
j'ai eu une enfance un petit peu difficile, mm-hmm. et le fait de pouvoir évacuer à travers le sport tout ce qui ne me plaisait pas, et ben voilà, ça m'a forcé à faire du vélo beaucoup plus que tout le monde. Quand ça n'allait pas, je prenais mon vélo, j'allais faire un tour. Et puis surtout, c'est grâce au sport, j'ai fait de belles rencontres et je me suis dit, bah, c'est super finalement, ça me fait du bien et puis ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Okay. Donc voilà.
Bon, les rencontres, on va en parler aussi. Donc si je comprends bien, finalement, le sport, ça a toujours fait partie de ta vie et tu t'es pas levé un matin en te disant, allez, moi je veux être un sportif de haut niveau ou voilà, je veux faire ça dans ma vie, je veux en faire ma carrière.
Non, ouais, c'est vrai, depuis tout le temps, j'ai tout le temps fait du sport. Je pense que je devais courir avant de savoir marcher. Je grimpais aux arbres, j'adorais ça. Et puis, mes parents me laissaient aller dans le village comme je voulais, même quand j'étais tout petit. Donc, j'allais chez mon meilleur ami d'enfance, Valérie. Et j'y allais en vélo ou en courant. Tout était prétexte, de toute façon, à faire du sport.
Ok. D'où le choix aussi de ton métier aujourd'hui, ta profession de prof de sport ?
Ouais, alors là c'est un peu particulier, alors c'est lié forcément, mais moi je m'imaginais surtout pas faire des études parce que personne n'avait fait des études dans ma famille.
D'accord.
Donc moi je suis issu d'un milieu ouvrier, donc je pensais y rester dans ce milieu. Et puis quand je suis arrivé en 6e, je suis tombé sur un enseignant de PS, Monsieur Idé, qui est devenu pour moi une référence, une star. J'aurais aimé que ce soit mon père, tellement j'étais fan de lui.
Donc c'était ton mentor,
C'était mon mentor et c'était mon prof principal en 6e. J'avais des résultats corrects, mais sans travailler. Et il m'a mis un bon coup de pied au derrière. Il m'a dit, voilà, si tu travailles, tu peux t'en sortir. Et puis ça a été un déclencheur. Voilà.
Donc il fait partie des personnes qui ont une place importante, en tout cas, dans ta vie.
Il a une super place importante dans ma vie. Et je suis allé le revoir, je ne sais pas, il y a 10 ans, peut-être.
Génial.
Pour lui dire que j'étais devenu prof de PS comme lui. Et bon, il le savait. Et on a pleuré tous les deux parce que je lui ai dit à quel point il avait été important dans ma vie.
Waouh, formidable.
Mais il m'a vraiment donné envie de faire ce métier, ça, c'est sûr.
Ok.
Parce qu'il avait posé un regard sur moi. Il ne s'était pas arrêté sur la première rencontre. J'étais timide, j'étais plutôt renfermé. J'étais très fort en sport, mais il n'y avait que ça, en fait, qui se dégageait de moi. Et lui, il avait autre chose.
D'accord, il a décelé le potentiel.
Je suppose. Si, c'est ça, parce qu'il me l'a
Vous
dit.
Vous en avez reparlé,
oui. On a reparlé, forcément. Et puis, bon, il connaissait un peu mes conditions de vie qui étaient difficiles. Donc, il savait que l'école pouvait être un ascenseur social pour moi. Donc, il ne me l'a pas dit clairement comme ça en sixième. Mais,
Oui, parce qu'à cet âge-là, c'est...
On ne comprend pas.
On comprend pas ce genre de choses. On comprend après. C'est pour ça,
j'ai compris bien après. Et puis, c'est après, plus les années passaient, plus je me disais, voilà, je veux devenir prof pour pouvoir aussi, à mon tour, aider quelqu'un.
Waouh, super. Ok. Et alors, juste pour en revenir au short track, donc tu nous disais que tu as fait beaucoup, beaucoup de sport dans toute ta vie. Est-ce que tu arrives à expliquer qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce sport-là ? Est-ce que c'est pour les sensations que ça te procure ou voilà, je sais pas, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce sport ?
Je ne connaissais pas du tout l'activité avant de faire une recherche sur Internet.
D'accord.
Alors, je cherche un nouveau sport sur Reims. Je suis tombé sur le club du Reims patinage de vitesse et je me suis dit, waouh, ça a l'air super. Mais je ne m'imaginais pas vraiment ce que c'était. Je me disais, on patine sur la glace. J'ai envoyé un mail au président lui disant, voilà, je suis un grand sportif, je cherche une nouvelle activité. Est-ce que je pourrais venir essayer ? Il m'a dit, oui, viens, il y a 3 séances d'essai gratuites. Dès la première séance, je suis tombé amoureux. Enfin, je n'étais pas doué sur la première séance. Mais après mon créneau d'entraînement, il y avait les plus confirmés qui patinaient. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je suis resté pendant le premier mois, je pense, où je suis allé à la patinoire. Je suis resté tout le temps en deuxième heure à l'extérieur pour regarder les grands fers.
Les regarder, ouais, d'accord.
Tellement je trouvais ça trop beau.
Joli, d'accord, de les voir glisser
Parce que ça semblait tellement facile, accessible, tellement c'était bien fait.
Ouais, oui, j'avoue, je confirme que quand on vous regarde, on a l'impression que c'est facile.
Et je me disais, peut-être que je vais arriver aussi à reproduire ça. Et puis je suis tombé amoureux du short track.
D'accord. Et alors, par contre, parce que là, on parle du patinage sur glace, mais il y a aussi sur route, roller sur route. Là, c'est ce que tu fais aujourd'hui,
c'est ça ? Oui, maintenant, je fais beaucoup plus de roller. Je continue à aller à la patinoire une fois de temps en temps pour voir les copains et puis entretenir des relations avec les gens du club, parce que je fais partie du bureau. Mais maintenant, oui, je fais beaucoup plus de roller. De toute façon, l'activité principale, maintenant, c'est le roller de vitesse.
Et alors, on s'entraîne où pour faire du roller de vitesse ?
Alors, ça, c'est le point noir de notre situation avec Christophe, parce qu'on n'est que 2 patineurs dans le club à faire du roller.
Okay.
On n'a pas de structure pour s'entraîner. Donc, on s'entraîne soit sur la route, soit dans une zone commerciale. Alors, sur la route, c'est dangereux, forcément. On a déjà été agressé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai déjà été agressé. Et puis, les gens ne comprennent pas forcément. Hein. Je peux comprendre aussi hein, de voir des gens rouler à plus de 40 km/h sur la route. Ils doivent se dire, s'ils tombent, on va les écraser. Quoi.
Donc, vous roulez à plus de 40 km/h.
Oui, on s'entraîne. Ça, c'est un petit peu notre point négatif à tous les deux, notre défaut. C'est pour aller vite, il faut apprendre à bien patiner. Mm-hmm. Et en fait, les deux, travailler les deux en même temps, c'est difficile. Donc nous, on travaille la survitesse, donc soit derrière une voiture dans l'aspiration ou soit dans une descente. Mm-hmm. Et on va à plus de 50 km/h, mais d'accord. En patinant toujours, sans forcer, puisque ça descend, donc ça nous aide. D'accord. Et ça nous permet de poser notre technique.
Mm-hmm. Mais ça nécessite, au-delà de ces entraînements, ça nécessite d'autres entraînements par ailleurs. Est-ce que tu fais de la musculation, de la course à pied?
Alors non, la course à pied, j'en fais pas du tout parce que c'est super traumatisant. Donc là, j'en ai fait récemment, mais parce que la saison est finie. Mais sinon, pendant la saison, je ne cours pas parce que sinon, j'ai trop de traumatismes musculaires. Mmh. Et du renforcement musculaire, de la préparation physique générale, on en fait comme dans tous les sports.
Ouais, c'est indispensable finalement.
C'est obligatoire.
Et est-ce que tu peux nous parler de ton actualité récente par rapport à ça? Alors moi, je sais que tu reviens de deux championnats importants, mais est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, il y a ces deux championnats, mais il y a surtout l'année qui s'est écoulée, est extraordinaire. Plus pour Christophe, qui est mon partenaire d'entraînement, mais très bien aussi pour moi. J'ai fait deux podiums sur les Coupes de France marathon. Wow. Donc, c'était mes premiers podiums. J'ai eu de nouveau une sélection d'équipe de France pour aller au championnat du monde début septembre, où j'ai terminé quatrième. Donc là,
bravo.
J'étais très, très content.
Et Christophe premier, je crois.
Et Christophe a fini premier,
bravo,
voilà.
Bravo, bravo.
Derrière ça, il y a eu les championnats de France et la finale de la Coupe de France. Au championnat de France, je fais quatrième et je finis troisième de la Coupe de France de l'ensemble des marathons de la saison. Donc d'accord. J'étais super content. Donc c'est la première récompense officielle cette année.
Waouh, quelle réussite. Bravo. En termes d'entraînement, justement, pour préparer ce genre de compétition, ça représente quelle charge de travail?
Alors, durant l'année, on s'entraîne au moins 4 fois 2 heures sur les rollers par semaine, plus une sortie vélo le week-end. L'année dernière, on s'est inscrit dans un club de vélo, le club de Guignicourt, l'histoire de pouvoir tourner les jambes sans se fatiguer, puis être avec un petit groupe sympa.
Ouais, ok. Alors, comment ça se passe justement? Tu me dis 4 fois 2 heures, donc c'est quoi? C'est le soir, après le travail? Comment tu arrives à jongler avec la vie pro, la vie de famille, le sport? Comment ça s'organise tout ça?
C'est un peu compliqué. On a un planning très, très chargé à la maison parce que tout le monde est sportif. Et puis, les entraînements sont tellement difficiles qu'on essaie de travailler ensemble avec Christophe, de ne pas faire séparément nos entraînements parce qu'on est que deux à s'entraîner. Donc il y a mon emploi du temps et il y a le sien.
C'est une volonté juste d'être ensemble ou c'est vraiment une nécessité?
Non, c'est indispensable parce qu'on pourrait faire les entraînements seuls, mais on n'aurait pas ces résultats-là, c'est sûr. On en est conscients tous les deux. Parce que quand on est ensemble, on est capable de se faire beaucoup plus mal, physiquement.
D'accord, ok. Donc c'est indispensable de s'entraîner à deux.
Oui, et puis si un jour on est moins bien, et ben on sait que le copain est là pour nous aider. Voilà, nous motiver.
Même moralement, c'est
ça? Moralement, c'est hyper important. Ouais. Okay. On a besoin l'un de l'autre, hein, ça c'est sûr.
Ok. Et bien justement, c'était ma prochaine question, parce que là, on parle de l'entraînement et de la préparation physique, mais en termes de préparation mentale, est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou pas?
Alors non, moi je fais rien de particulier. De toute façon, on se débrouille tout seul, on n'a pas d'entraîneur, donc on se débrouille vraiment tout seul avec Christophe.
Coach sportif.
On n'a pas de coach, la personne qui va nous dire, ben là, ton pied était mal placé. Ça, c'est un peu vraiment le point faible de notre structure, du rince patinage de vitesse, parce qu'on a des gens compétents sur la glace, mais on a personne pour le roller. Mm-hmm. Donc on se débrouille, on se corrige nous-mêmes. Et puis au niveau mental, on est suivi par personne, ni lui ni moi. Moi, je pense pas forcément en avoir besoin parce que je pense que j'ai bien la tête sur les épaules. Mm-hmm. Et dans mon métier de tous les jours, j'apprends aux enfants à faire du sport. Mm-hmm. Et quand ça marche pas, il faut que je trouve une solution. Donc je prends souvent du recul pour analyser ce qui s'est passé et, et pouvoir trouver une solution. Et je pense
pour que eux se surpassent,
pour que eux se surpassent, les enfants se surpassent. Ou arrivent à atteindre l'objectif fixé. Et en fait,
tu essayes un petit peu de reproduire ton prof de sport de l'époque qui
t'a inspiré. Exactement. Okay. C'est exactement ça. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas une journée, je ne pense pas à lui.
D'accord. Ouais, génial. Et du coup, ça t'arrive à le transposer.
J'arrive à le transposer à moi-même, en fait. Okay. Quand il y a quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, je ne vais pas baisser les bras tout de suite et je vais me poser la question, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer? Et puis, tout de suite, essayer de le mettre en place.
Ok, d'accord, je comprends. Ouais. Ça, c'est une vraie force. Ça doit vraiment t'aider parce que tu dois avoir, j'imagine, ou pas peut-être, mais comme tout le monde, un petit peu des coups de mou de temps en temps ou... est-ce qu'il t'arrive des fois d'avoir la petite voix? Moi j'entends souvent des gens autour de moi, souvent quand on fait de la course à pied d'ailleurs, Il y a une petite voix dans l'esprit qui se dit « Mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'y vais ?»
Alors, ça peut m'arriver, ça, sur certaines compétitions, parce qu'on fait les 24 heures du Mans, donc là, c'est 24 heures de roller, en équipe.
Les 24 heures du Mans, ouais, roller.
En roller.
Okay.
Et là, à un moment donné, pendant la nuit, quand on est en train de patiner, on se dit « Pourquoi on
mais
est venu ?»
Mais pourquoi ? Pourquoi je suis et là et pourquoi je suis pas bien
mais rapidement, chose, ou... rapidement, moi, j'arrive à laisser ça de côté, parce que je me dis « Je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour une équipe, on vise le podium, et tout de suite, je me recentre sur l'objectif principal. » Même si pendant la nuit ça reste difficile pour tout le monde.
Bien sûr.
Mais
c'est pour toi, est-ce que tu es en train de dire que c'est plutôt difficile c'est plus difficile d'un point de vue physique finalement, parce qu'à un moment donné, inévitablement, même si tu es bien préparé, il y a de la fatigue, j'imagine.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est plus difficile physiquement que mentalement, c'est ça ? Ou pas ?
C'est plus difficile physiquement, ça c'est sûr, parce que on a besoin de dormir la nuit, le corps il nous réclame
le
sommeil, voilà.
Ouais,
qu'on ait fait du sport ou pas, de toute façon il faut
sûr,
se reposer.
Ouais,
et là c'est vrai que les temps de repos sont très courts. Mais
c'est quoi alors ces temps de repos, c'est combien de temps?
Bon, là cette année on patinait en gros une heure à deux, on était un binôme, on se relayait pendant une heure et après on avait deux heures de repos.
D'accord. Et donc ça pendant 24 heures.
Pendant 24 heures.
Effectivement ça fait peu de.
Alors moi comme je suis un peu, c'est pas le bon terme mais je veux dire un peu stressé par l'organisation, alors que c'est pas moi qui la gère, j'ai toujours peur que quelqu'un rate son relais ou ne se réveille pas.
Okay.
Donc du coup, ça perturbe mon sommeil.
Ok, oui, parce
je suis attentif aux autres aussi. Okay. Voilà. Je peux pas m'empêcher de faire ça.
Tu restes un petit peu éveillé pour être sûr que tout se
goupille bien. Voilà, s'il faut quelqu'un en urgence, et je peux le faire.
Ouais, ok, ça marche. Et justement, pour parler de l'aspect mental, là, comme on disait à l'instant, on en a déjà parlé ensemble. Moi, j'ai écouté une interview il y a pas très longtemps de Stéphanie Jiquel, qui est aussi une grande sportive. Qui fait des ultra-distances, marathon Pôle Nord, etc., qui explique qu'elle pratique la visualisation, c'est-à-dire en termes de préparation mentale. Elle visualise sa compétition, son parcours, comment ça va se passer. Elle le fait plusieurs fois et c'est ça qui lui permet de tenir quand elle est en train de vivre la compétition. Et elle visualise aussi qu'est-ce qui pourrait se passer comme difficulté, quelle douleur elle pourrait ressentir, etc. Et c'est ça qui lui permet de tenir quand elle est en train de vivre le moment. Et elle explique même dans son interview qu'il y a une fois où elle l'a pas bien fait, cet exercice de visualisation, et elle s'est retrouvée face à une difficulté qu'elle n'avait pas anticipée. Et c'est la seule fois où elle a abandonné.
D'accord.
Je crois que c'était une ultra distance. Je ne sais plus laquelle c'était, mais peu importe. Et c'est la seule fois où elle a vraiment abandonné et elle l'a très, très mal vécu. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pratiques aussi ?
Alors moi, oui, d'une certaine façon, c'est plutôt le parcours de la compétition. Sur les marathons, en fait, c'est une boucle dans une ville, une boucle de 2 km qu'on doit répéter. Et j'ai besoin de la voir, de rouler dessus à l'échauffement. Et après, j'arrive à me projeter dessus en me disant, quand je vais arriver dans ce virage-là, même si j'arrive vite, je sais que ça passe.
Ok.
Y a pas,
Mais ça, c'est vraiment juste avant, la compète. C'est pas plusieurs jours avant, tu vas pas en repérage sur le parcours.
Non, je vais pas en repérage et puis je m'imagine pas en train de patiner ou de faire telle chose parce qu'il y a tellement d'aléatoires. C'est un sport où on est nombreux, on peut toucher les patins d'un adversaire et tomber. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer que c'est difficile à prévoir.
Oui, tu peux pas
donc je me focalise sur les choses que moi je peux gérer. Donc l'entrée dans un virage, c'est moi, c'est pas les autres patineurs. Je me focalise surtout là-dessus.
Ok. Tu parlais en début de parcours donc de ce fameux prof de PS qui a été un petit peu ta référence et une des premières personnes importantes dans ta vie. Est-ce que tu as eu d'autres mentors dans ton parcours ou des personnes, sans parler forcément de mentors, mais des personnes en particulier qui ont vraiment été inspirantes pour toi et qui ont joué vraiment un rôle significatif dans ton parcours aujourd'hui ?
Alors là, si je développe, on va passer beaucoup de temps. Mais moi, en fait, je crois que je pourrais écrire un livre... vraiment pour retracer ma vie, mon parcours, parce qu'il y a toujours eu un moment clé, quelqu'un qui était là pour m'aider. Quand j'avais, parce que des doutes, j'en ai eu, notamment quand j'ai fait mes études, j'ai eu tous les ans, à chaque fois à la rentrée, j'avais des doutes. Ça, je continuais mes études si j'arrêtais.
Et qu'est-ce qui faisait que tu continuais finalement ?
Pas parce qu'il y avait toujours une personne qui me disait, regarde ce que tu as fait, si tu as besoin d'aide, on sera là. Il y a toujours eu des personnes importantes, mais depuis le collège en fait. Et en fait, quand ça m'est arrivé, je ne me rendais pas compte. Et là, aujourd'hui, avec le recul, maintenant que je suis adulte, je me rends compte que sans ces gens-là, oui, effectivement, je n'en serais pas là aujourd'hui.
Okay.
Donc c'est plein de rencontres qui ont été hyper importantes. Et tu me parlais d'un mentor. Alors, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, et encore plus maintenant parce que malheureusement, il souffre en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui était placé. C'était un enfant d'Adas, comme on disait. Et à 18 ans, il a tout quitté. Il est parti avec les habits qu'il avait sur lui et pas un sou en poche. Et puis, il est devenu papa, il a une maison, il a deux enfants qui ont réussi, il est heureux dans sa vie. Quand on parle de son enfance, quand il me raconte son parcours, moi, ça me transcende, quoi. Je me dis, il est parti de rien.
D'être parti de rien et d'en être arrivé là aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est quelqu'un qui t'inspire
Ouais, c'est quelqu'un de proche et encore plus maintenant parce qu'il a une maladie et c'est compliqué.
Ok. Donc, c'est vraiment, ta vie, elle est vraiment faite de rencontres.
Elle n'est faite que de ça.
Que de ça.
Alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment l'expliquer parce que j'essaie de comprendre pourquoi les gens se sont intéressés comme ça à un moment. Je ne suis pas allée chercher, je n'ai pas demandé de l'aide.
Alors tiens, justement, c'était une de mes questions. Comment elles sont venues, ces rencontres? Est-ce que c'est toi qui les as provoquées? Est-ce que c'est le hasard? Enfin, en même temps, moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard et que la vie, elle met sur notre chemin les bonnes personnes.
Mais je pense comme toi.
Bon, ben voilà. Mais jamais tu as provoqué ces rencontres?
J'ai jamais provoqué. En fait, c'est des gens proches. C'est souvent des parents de copains, en fait, qui connaissaient un peu ma situation, etc. Mais qui décelaient, je ne sais pas, à travers mon regard peut-être, parce que je pense qu'à travers le regard on voit plein de choses, on peut lire plein de choses et qui décelait soit une incertitude, soit un doute, soit besoin de parler, des fois c'est juste parler avec quelqu'un et c'est énorme donc ça c'est des gens extérieurs un petit peu au monde du sport et à l'école. Mais pour en revenir au milieu de l'école, dans le monde scolaire, il y a eu cet enseignant en 6e, il y en a eu un autre en seconde. À un moment clé, passage au lycée, il habitait mon village, il était prof d'histoire géo, il m'a pris un peu sous son aile. Enfin, ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit, mince, la vie est belle, quoi.
Waouh, c'est génial. Ouais. Et tu l'as revu, celui-ci?
Alors, on s'est revu régulièrement pendant le lycée, et après, on s'est un peu perdu parce qu'il est parti vivre dans le sud. Je lui ai envoyé un message pour dire que j'avais réussi, que je voulais le remercier, etc. Je voudrais bien le revoir physiquement parce que, bon, je sais comment ça va se terminer, je vais avoir les larmes aux yeux parce que je suis très sensible. Mais j'aimerais qu'il se rende compte à quel point il était important. J'étais incapable de le faire avant. C'est récent, ça aussi, que je suis capable d'aller voir les gens et de dire, voilà, vous avez été important de ma vie, etc.
Et qu'est-ce qui fait, tu penses qu'avant, tu n'arrivais pas à le faire et aujourd'hui, tu y arrives?
Alors, ce qui me permet de le faire, c'est deux choses, ça, j'en suis certain. C'est depuis que j'ai des enfants, depuis que j'ai réussi ma vie, entre guillemets, parce que pour moi, c'est ça, réussir sa vie. Enfin, en tout cas, construire une famille, c'était hyper important pour moi. Donc je me suis assumé, j'ai pris de l'assurance et puis la perte d'un monsieur qui était important dans ma vie d'enfant, je l'avais remercié par un courrier quand je suis devenu enseignant et j'avais pas le courage d'aller le voir et lui dire. Et puis malheureusement il est décédé et je me suis dit mince, là j'ai été bête, j'ai regretté énormément et juste après donc je suis allé voir ce fameux enseignant de PS de 6e.
T'as pris ta revanche en allant voir.
Je suis allé le voir, je voulais pas rater l'occasion une nouvelle fois.
D'accord, ok. Mais moi, je partage complètement ce que tu dis et c'est d'ailleurs le principe de ce podcast, c'est de pouvoir s'inspirer de personnes et de parcours de vie et de gens qui sont inspirants et même si là, au travers du podcast, on n'est pas sur des rencontres physiques, on est plus sur du virtuel, mais je trouve que le partage d'expériences c'est tellement inspirant, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur d'autres choses, sur notre situation de sortir de nos schémas de pensée traditionnels.
Tous les jours, il y a un dicton qui dit qu'on apprend tous les jours, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Après, il faut aussi être à l'écoute, ouvrir les yeux, ne pas être assez ouvert d'esprit aussi. Parce qu'il n'y a pas que des choses bien qui arrivent dans la vie tous les jours. Ouais. Mais moi, je me sers aussi de ce qui ne se passe pas bien.
Ah, génial. Comment tu me tends la perche pour ma prochaine question. Alors justement, c'était ça dont j'avais envie de parler aussi. Comment tu fais? Parce que j'imagine que il y a des moments où ça se passe pas comme on veut, une compète qui se passe pas super bien, ou une blessure, comment tu fais pour traverser ce genre de, je sais pas comment on peut les appeler, difficultés ou d'épreuves ou...
Alors si je te parle des blessures, je suis pas le bon exemple parce que je suis pas raisonnable du tout. Moi, quand je suis blessé, je déprime. Enfin, je pense, y a une maladie, pareil, quand on est dingue de sport, on est bigorexique. Moi, je pense que je suis doublement bigorexique.
D'accord.
Donc, quand je suis blessé, je suis invivable. Donc, il ne faut pas que ça dure longtemps. Et de toute façon, si on me conseille 3 semaines d'arrêt, je vais prendre qu'une semaine. Okay. Je suis incapable. Donc, ça, c'est pas bien. Je le reconnais.
Mais t'es incapable. Pourquoi? C'est quoi? C'est parce que mon corps, de sport.
Je suis en manque et j'ai l'impression que j'existe plus.
Ok. Tu te réalises au travers du sport, de toute façon. Okay.
J'ai besoin de bouger tous les jours. Quoi.
Okay.
Et puis, si c'est un mauvais résultat, une compétition, ou si on peut appeler ça un échec, mais pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie.
Je suis assez d'accord.
Moi, quand je tire un enseignement de ce qui peut paraître négatif, si j'ai raté quelque chose, il y a forcément une explication. Donc il faut accepter. Il faut accepter dans un premier temps d'avoir échoué. Et puis rapidement se dire pourquoi j'ai échoué, quels sont les points que j'ai mal gérés. Et dans le milieu du sport, souvent, il y a de l'attribution causale. C'est-à-dire qu'on attribue souvent son échec à une cause extérieure.
Complètement.
Et moi, je ne fais jamais ça. Mmh. Si j'ai échoué, c'est forcément de ma faute. Et si c'est de ma faute, c'est facilement corrigé. Enfin, on peut le corriger.
Parce que même s'il y a effectivement une cause extérieure, enfin, qui n'est pas vraiment une cause, mais un élément déclencheur, la cause, finalement, c'est comment tu as géré cet élément déclencheur.
Exactement,
c'est ça.
C'est
et
ça.
Du coup, forcément, c'est que ça vient de toi, en fait.
Exactement. Ouais, et en fait, comme moi, je dis souvent, je n'ai confiance qu'en moi. Souvent, je dis ça,
ouais,
c'est vrai.
Bien sûr.
Parce que tu ne maîtrises pas,
de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur
Exactement.
Ou les autres.
Donc, je ne cherche pas à intervenir dessus. Je veux seulement maîtriser ce que je peux gérer.
Ouais, je comprends. Et tu dis, il faut commencer par accepter. Comment tu fais pour accepter ? Est-ce que
je relativise tout simplement. Je me dis que la vie est belle. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis heureux dans ma vie, j'ai un super boulot. Alors, c'est sûr, le sport a une place hyper importante dans ma vie. Mais... si je suis pas champion du monde, c'est pas grave, quoi. C'était pas forcément l'objectif. L'objectif vraiment premier, et il est atteint, et j'espère faire mieux quand même, hein, parce que je suis un compétiteur, c'était d'intégrer l'équipe de France. Je me disais,
ça
serait super,
fait.
Voilà, c'était un aboutissement, quoi. Personnel, parce que, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, quand j'étais petit, je voulais faire les Jeux Olympiques.
Mm-hmm.
C'était mon rêve absolu de faire les Jeux Olympiques.
Okay.
Puis bon, rapidement, je me suis rendu compte que je pourrais pas y aller parce que j'étais pas assez doué. Et puis voilà, il n'y avait pas les conditions externes pour que ça se passe.
Mm-hmm.
Et c'était une petite frustration. Et je me suis dit, au moment où on s'est lancé le pari avec Christophe, ça sera peut-être réparé si j'arrive à atteindre l'équipe de France.
Ok, c'était une autre façon de s'aboutir.
Mais après, voilà, les compétitions, si je finis 5e, c'est pas grave, quoi.
Ouais.
Si moi, j'ai donné le maximum pendant
la
compète, Je suis content.
Et c'est marrant que tu dis ça parce que justement, il y a une question, je m'étais demandé, j'avais hésité à te la poser ou pas, mais comme tu abordes le sujet, je vais te la poser. Nous, c'est vrai qu'on a suivi un peu presque en direct tes championnats du monde. Enfin, on a su rapidement que tu étais 4e, on n'était pas sur place, mais à distance, on a su rapidement que tu étais 4e. Évidemment, la première réaction, ça a été waouh, génial. Enfin, on était heureux, émus et tout ce que tu veux. Mais rapidement aussi, moi, je me suis dit, alors je ne l'ai pas dit oralement, mais je l'ai pensé dans ma tête, je me suis dit, ah mais mince, est-ce qu'il va être content ? Enfin, c'était pour toi en fait,
alors,
que je pense à ça. Je me dis, mais mince, est-ce qu'il va être content ? Parce que finalement, la 4e place,
c'est
un
la
peu la place de... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, comment...
Ouais. Alors, t'es pas la seule à avoir pensé ça, parce que beaucoup de monde m'a dit ça. M'a dit, bon, félicite, mais
évidemment,
tu dois être déçu. Eh ben non, je peux pas être déçu. La course s'est passée d'une façon qui n'aurait jamais dû se passer en plus. Parce que c'est un peu compliqué.
D'un point de vue positif, tu veux dire ?
Ah oui, oui.
Elle s'est mieux passée que ce que
Elle s'est mieux passée que ce qu'on aurait pu prévoir, parce qu'il y avait une stratégie avec l'équipe de France, parce qu'on est 5 en équipe de France dans ma catégorie, et je ne pouvais pas rouler avec Christophe, on ne devait pas rouler ensemble. On devait rouler en binôme français, mais je ne devais pas rouler avec Christophe. Et puis finalement, la course a fait que je me suis un peu échappé pendant la montée, pendant la seule difficulté du parcours. Et puis il n'y a aucun Français qui est venu se mettre avec moi. Et puis Christophe s'est dit à un moment donné, mince, il faut que j'aille parce que c'est peut-être le bon coup. Et puis il restait encore 20 km à faire. Donc ça, c'était inespéré de pouvoir rouler ensemble parce qu'on se connaît très bien, on sait très bien, on connaît nos points forts, nos points faibles tous les deux. Et donc voilà, ça c'était déjà positif. Et puis,
au moins déjà de faire
de
une
rouler,
partie de
voilà,
la course
ensemble. On sait qu'on
au championnat du monde, vous
sait,
entraînez ensemble tout le temps.
On sait qu'on est
là,
plus forts tous les deux. Ça,
c'est...
Même si Christophe, franchement, cette année a été un cran au-dessus, il m'apporte peut-être plus que ce que moi je peux lui apporter, mais c'était important
mais
pour nous deux quand même.
Complémentaire,
Et puis rapidement, moi dans la course, je me suis dit, si on va au bout, de toute façon, au pire, je suis 4e. L'année dernière, j'avais fait 22e au championnat du monde, donc c'était déjà extraordinaire. La course s'est passée, il y a eu des relais de fait, il y a un Espagnol qui a pas joué le jeu, mais c'était aussi la course, quoi, c'est une stratégie de course. Et puis finalement, au sprint, je perds, je fais 4e. Mais je peux rien regretter, quoi. Parce que il aurait fallu que je roule peut-être moins pour m'économiser, mais si j'avais fait ça, peut-être que je finissais pas 4e. Donc je peux pas avoir de regrets. Aucun.
Ouais, je comprends.
Et une médaille autour du cou, être à deux sur le podium, ça aurait été super. Voir Christophe sur le podium, j'étais déjà super content. Et moi je sais que je suis 4e cette année, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine.
C'est vraiment un très bel état d'esprit, je trouve. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cet état d'esprit-là, de réussir à se dire c'est déjà énorme d'être 4e. Et même quand je vis une déception, entre guillemets, pour pas prononcer le terme d'échec, mais accepter et prendre du recul, qu'est-ce que tu pourrais conseiller par exemple aux gens qui vont nous écouter là et qui ont du mal à avoir cet état d'esprit là, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire finalement?
Il faut se dire que si on est arrivé à à un tel niveau, enfin je parle pour le sport, mais c'est dans la vie de tous les jours, hein. Je vais prendre un exemple, je sais pas, quelqu'un qui se fait licencier par exemple, c'est toujours une situation difficile à vivre.
Bien sûr.
Et ben il faut se dire, bon, j'ai été licencié pour quelle raison ? Certainement pas lié, enfin ça peut, c'est certainement pas lié à un manque de compétences, c'est peut-être simplement parce que la boîte elle pouvait pas garder une personne supplémentaire et puis malheureusement je suis le dernier arrivé dans la boîte, donc c'est à moi de partir. Il faut prendre le temps de réfléchir à quelles sont les raisons qui ont fait que on est arrivé à cette situation-là.
Ouais. Et puis en quoi aussi ça peut être positif, parce que parfois sur le moment on se rend pas compte du côté positif de la chose, mais moi, enfin, je pars du principe qu'il y a toujours du positif dans une situation.
Il y a tout le temps, c'est...
Mais sauf que sur le positif, on le voit pas forcément sur le moment, on le voit après. Ouais. C'est comme toi dans une compétition. Si par exemple il y a une course qui se passe pas comme tu veux, bon ben voilà, sur le moment c'est peut-être un petit peu désagréable, mais il y a peut-être du positif parce que derrière tu vas apprendre que
de ce qui se passe. C'est pas forcément des erreurs, mais
tu progresses de toute façon dans tous les cas.
Pour rebondir, il faut analyser ce qui s'est passé. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je fais tous les jours.
Il y a une méthode bien particulière à ça ? Est-ce que tu te poses ?
Je sais pas. Moi,
est-ce que tu t'isoles pour faire ça ? Ça te prend du temps ? Ou est-ce que ça vient tout seul ?
Non,
en fait
parce que c'est un peu mon métier de tous les jours. Être prof, c'est pas juste donner un ballon et puis, enfin, être prof de PS, c'est pas juste donner un ballon puis dire aux gamins, allez-y, vous jouez. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de les tirer vers le haut, notamment ceux qui sont en échec. Mm-hmm. Il faut que je trouve une solution pour les aider, pour les valoriser. Mm-hmm. Et je passe mon temps tout le temps à analyser ce qui se passe et à me dire qu'est-ce que je peux faire pour les aider.
Qu'est-ce qui lui conviendrait à lui pour l'aider à avancer. Voilà.
Même si c'est pas grand-chose, mais trouver un point positif.
T'as un exemple à nous donner ?
J'ai un exemple, là, je fais gymnastique avec des troisièmes et j'ai un élève qui sait pas faire de roulade avant. Et c'est vrai, quand on est en troisième, normalement, on sait faire les roulades avant. Donc là, on vient de commencer le cycle, il m'a dit non, moi je suis nul en gymnastique, j'y arriverai pas, c'est pas la peine. Je lui ai dit, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas gênant qu'il n'y arrive pas.
On a le droit de ne pas savoir.
Et je ne vais pas te transformer en champion demain. Faut que ce soit clair. Mais par contre, si tu essayes, si je te vois faire au moins une fois, je pourrais te dire pourquoi tu ne réussis pas.
Qu'est-ce qui fait que tu y arrives
et
pas ?
Il y a une situation de confiance après qui s'installe, bien ou qui ne s'installe pas. Ça ne marche pas tout le temps, mais j'ai quand même de la chance, ils me font quand même confiance. Il a essayé, c'était pas si mal que ça finalement. Il avait une mauvaise image de ce que lui pouvait faire. J'ai corrigé son défaut, puis voilà.
Est-ce que tu penses que tu m'as parlé de deux profs, toi, qui t'ont vraiment inspiré ? De ce que je comprends, c'est ce que tu essayes de faire aussi, toi, dans ton métier de prof aujourd'hui. Est-ce que tu penses que jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà inspiré des jeunes comme toi, tu as été inspiré à l'époque et est-ce que tu t'attends à ce qu'un jour, peut-être dans quelques années, il y ait un ancien élève qui vienne te voir et qui te dise « Oh, monsieur Dolez, si vous saviez comment vous m'avez inspiré
!» Sans vouloir... se la raconter,
te lancer des fleurs,
moi je garde beaucoup de contacts avec les anciens élèves. Alors, j'en ai qui sont à la fac, j'ai un ancien élève qui est devenu prof de PS, alors pas forcément grâce à moi, mais le retour que j'ai est souvent, même ceux qui sont encore au collège et qui m'ont pas cette année, etc., ils m'apprécient, ils sont contents, sont contents de m'avoir eu. Souvent on me dit, monsieur, vous êtes le meilleur des profs, c'est pas, je leur dis, c'est pas vrai, c'est voilà.
C'est pas la notion de dire meilleur que, parce que ça veut dire que, enfin, il n'y a pas de compétition entre profs, mais en tout cas,
puis c'est pas une histoire de compétence, c'est que au niveau relationnel ça se passait bien. J'ai des élèves qui, voilà, qui me disent que j'ai été important. Après, est-ce que je les ai transformés vraiment dans la vie, je ne sais pas. Il y a une année, quand j'ai commencé, il y a une élève qui vivait une situation difficile, et je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais j'ai fait un signalement, tu vois. Un signalement pour que ça se passe mieux chez elle. Et finalement, elle a été retirée de sa famille, ce qui était la meilleure solution.
Pour elle.
Et je pense que rien que ça, tu vois, moi, je le sais.
C'est tellement important.
J'ai pas besoin qu'elle vienne me le dire. Je sais que forcément, ça peut être que mieux.
Forcément, voilà. ça jouera dans sa vie.
Après, si aucun élève vient me voir en me disant que j'ai été... que j'ai joué un rôle majeur ou le mentor, c'est pas grave, je serais pas déçu.
Oui, parce qu'au final, toi, tu sais ce que tu fais.
Oui, et puis ils me le rendent tous les jours. Je le vois bien, j'ai rarement, enfin, on est trois profs de PS au collège, les trois, et peut-être qu'on a un truc particulier, j'en sais rien, mais on a rarement de soucis avec nos élèves.
Ça se passe toujours bien, ok. Bien, est-ce que, il me reste deux questions pour terminer, si tu veux bien. Est-ce que tu aurais une source d'inspiration que tu voudrais partager avec les gens qui vont nous écouter ? Quand je parle de source d'inspiration, ça peut être une personne, un autre sportif, un livre, une citation, un film. voilà, quelque chose qui peut-être toi t'a marqué ou qui, voilà, qui pourrait représenter un petit peu.
Il y a un livre moi qui m'a marqué énormément et dont je me sers. Alors sur l'aspect mental, je disais que je fais rien, mais en fait quand je suis dans le dur, dans la difficulté, je pense à ce bouquin là. Alors c'est La mort suspendue de Joey Simpson.
D'accord,
c'est
La mort suspendue, ok.
C'est un alpiniste à qui il arrivait, bon, je vais pas raconter le livre sinon les gens n'ont plus le lire, mais il lui arrivait quelque chose et il a dû se faire violence physiquement, mais à un point pas possible, inimaginable, pour pouvoir vivre, survivre. Et je me sers de ça en fait, moi. Je l'ai déjà lu au moins 3 fois, je pense. J'ai vu le film, c'est mieux le livre que le film d'ailleurs.
Et quand tu dis que tu t'en sers comment?
Quand je suis dans le dur, je pense à son récit. Je me retrace ce qu'il a vécu. Et je me dis, c'est rien ce que je suis en train de
faire. C'est rien ce que je suis en train de faire par rapport à ce que vous
l'avez vu. Alors, je ne vais pas dire que ça me met un coup de boost, hein, c'est pas vrai, mais au moins ça me permet de m'échapper. Je ne pense plus à la difficulté, puis je pense à autre chose.
Tu penses à autre chose, voilà. Et du coup, ça te permet,
ça me permet de continuer.
De prendre de la distance par rapport à ce que tu es en train de vivre, toi.
Ouais, et c'est vraiment le bouquin que je.
Que tu recommandes.
J'en ai lu plein d'autres, hein, des récits d'aventures comme ça. C'est souvent dans le milieu de la montagne en plus, hein, j'adore ça. Mais celui-là, il m'a marqué énormément.
Donc tu peux nous redire le titre et l'auteur?
Alors, c'est La mort suspendue de Joey Simpson.
Ok, très bien. Je le connais pas, donc je vais...
Je le laisse, tu vois.
Avec plaisir. Avec plaisir. Je veux bien le lire, ça m'intéresse. Ok, et ma dernière question, c'est quoi la suite alors? On a parlé des différents championnats de cette année. Et là, où est-ce qu'on peut te retrouver? Les prochaines compétitions?
La prochaine compétition, là, cette année, ça va être super tôt. C'est les championnats de France marathon fin mars. Donc, c'est dans 6 mois.
Donc, mars 2019.
Voilà, donc c'est très, 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 ça va venir très vite. Et puis après, il y a toutes les étapes de la Coupe de France marathon, comme l'année dernière. Il y a une étape spéciale que moi j'adore, c'est le Rolathlon, qui est une course de 103 km à la montagne. Je pense qu'elle est faite pour moi, cette course. L'année dernière, j'ai fini 3e, on m'a volé un peu mon podium, on m'a classé 4e, mais c'est pas grave, cette année je vais me venger. Et puis j'espère de nouveau une sélection d'équipe de France pour les championnats du monde.
D'accord. Donc la prochaine date pour te suivre, c'est...
C'est fin mars, c'est les championnats de France, à côté de Nantes, voilà.
Si on veut te suivre, alors moi je te suis déjà, mais pour nos auditeurs, s'ils veulent te suivre par exemple sur les réseaux sociaux, comment ça se passe?
Oui, alors on a créé une page qui s'appelle RPV Roll Team sur Facebook.
Sur Facebook.
Et puis récemment, on a aussi un compte Instagram qui s'appelle RPV Roll Team.
D'accord. Donc s'il y en a des personnes qui veulent te contacter, te poser des questions ou te demander des conseils, on peut te contacter via ces deux.
Moi, je suis ouvert à tout. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je ne pense pas avoir une compétence particulière, mais je suis ouvert d'esprit. Voilà, c'est ça qui est important.
C'est ça qu'il faut retenir de toi. Ok. Bien. Écoute, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu voudrais ajouter ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour
Une dernière chose, faites du sport. C'est magique. C'est vrai que le sport a tellement de vertus, ça apporte tellement de bien. Pas dans un premier temps, parce que quand on s'y remet au début, c'est difficile et il faut faire violence. Mais après, ça
particulièrement permet. Dans la course à pied, je trouve. C'est impressionnant comment on peut vite progresser et en même temps vite, vite perdre en fait. Et quand on s'y remet.
Les premières sorties, ça fait mal aux jambes, les courbatures. Et puis rapidement, ça revient.
Mais inévitablement, c'est fait du sport parce que c'est bon physiquement et c'est bon pour le mental aussi.
Voilà, c'est bon à tout point de vue. C'est magique parce qu'on fait des rencontres, peut-être des rencontres qu'on n'aurait pas fait autrement, je pense. Il y a tellement de choses à apprendre des autres.
Et moi, j'irais même un tout petit peu au-delà en disant, et n'hésitez pas à découvrir, en fait, à essayer de découvrir d'autres sports parce que parfois, on n'imagine pas et on découvre.
Ou on se met des barrières alors qu'il n'y a pas besoin.
Alors là, je vais donner un tout petit exemple qui est le yoga. Alors, on pourrait croire que le yoga, ce n'est pas un sport, mais en réalité, si, ça en est un. C'est une forme de sport.
Je suis d'accord avec toi, bien sûr.
Et souvent, moi, quand je parle de yoga autour de moi, on me dit « Oh, mais je ne suis pas assez souple, je suis incapable de faire du yoga. » Oui, mais non, il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, en fait, puisque chacun va à son rythme, à son niveau et dans la mesure de ses possibilités. Et donc... Donc, parfois, on se met des freins, on se dit « Ah, je peux pas faire ça parce que je suis comme ça ou parce que je sais pas faire ça. » Mais en réalité, dans l'absolu, tout est possible.
Tout est possible, chacun avec son niveau et de départ. Et voilà, le but, c'est de se faire plaisir.
C'est une bonne fin, je trouve, tout est possible.
C'est parfait,
ça te va comme
moi, ça.
Ça
me va, super.
Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange.
De rien, merci
à toi. Et puis, écoute, peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine ou peut-être qu'un jour, tu disais tout à l'heure, je pourrais écrire un livre et
Ouais, alors je pense pas avoir les compétences. Peut-être que je ferai appel à
une personne, voilà. Mais écoute, on se retrouvera peut-être l'année prochaine.
D'accord, avec plaisir.
Pour la suite. Merci beaucoup, Benoît.
Merci à toi.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Rebonjour à tous. J'espère que cette interview vous a plu et qu'elle vous aura apporté autant d'énergie qu'à moi au moment de cette rencontre. Je vous avoue que même si je ne manque pas de dynamisme au quotidien, Benoît m'a quand même transmis le sien à ce moment-là et ça fait drôlement du bien. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous et que vous aurez pu ressentir toute cette énergie positive au travers de l'interview. Alors comme promis, je reviens donc en solo dans cette deuxième partie d'épisode pour vous proposer une clé, donc un outil pratique de développement personnel. Et avant de développer cette clé, j'avais envie de partager avec vous deux citations que j'aime particulièrement. La première, elle est de Nelson Mandela et il nous dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Alors je vous la redis une deuxième fois parce que je la trouve particulièrement puissante. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et la deuxième citation que je voulais vous proposer, c'est la suivante. Le gagnant n'est pas celui qui n'échoue jamais, mais celui qui sait utiliser ses échecs pour croître. Et celle-ci, elle est d'Eric Berne. Eric Berne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand psychiatre américain. Je trouve que ces deux citations illustrent parfaitement bien les échanges que j'ai eus avec Benoît. Pour ma part, je n'aime pas trop la notion d'échec. Je trouve que ce terme a un côté péjoratif, un côté négatif. Et je préfère partir du principe que dans la vie, il n'y a pas d'échec, mais il y a plutôt des résultats qui nous permettent d'apprendre et de progresser. Malgré tout, lorsque l'on vit une situation comme un échec, peu importe que ce soit sur le plan personnel, le plan physique, le plan affectif, ou le plan social, ou même le plan professionnel, vraiment peu importe le domaine, on a souvent du mal sur le moment à l'accepter et parfois même à en sortir. Il peut nous arriver de ruminer la situation pendant un certain temps et de rester dans nos émotions négatives, ce qui du coup n'est pas très agréable et pas très utile non plus. En même temps, penser que l'on pourrait vivre une vie parfaite, sans émotions négatives ou sans difficultés quelles qu'elles soient, sans vivre des situations qui ne se passent pas comme on le voudrait. Enfin, imaginer qu'on pourrait vivre une vie parfaite comme ça, c'est un peu utopique, voire même totalement impossible. Donc, charge à nous de faire en sorte que lorsque ces situations se produisent, elles deviennent finalement quelque chose de positif et qui nous soit utile. Hein. Tant qu'à vivre ce genre de situation ou d'émotion que l'on considère parfois comme un échec, autant en faire quelque chose de positif et d'utile plutôt que de quelque chose de désagréable. Et alors là, la question qui peut se poser, c'est comment faire ? C'est ce que je vous propose au travers de cette clé, c'est d'apprendre à prendre du recul par rapport à une situation. L'idée principale est de se dire qu'on a souvent tendance à chercher la cause de notre non-réussite, pour ne pas dire échec, dans une cause extérieure. Un fait, une personne, le manque de temps, ou en tout cas un élément de notre environnement, quelque chose d'extérieur à nous. Dans l'interview, Benoît nous a par exemple parlé de la météo dans une compétition. Et le problème avec ce type de comportement ou de réaction, dans le fait de rechercher la cause dans un élément extérieur, est que d'une part, nous donnons le pouvoir aux éléments extérieurs ou aux personnes, ce pouvoir d'agir sur notre bien-être et la façon dont on va se sentir. Et d'autre part, bien souvent, on en reste là sans chercher à aller plus loin dans la réflexion, ce qui finalement ne nous apporte pas grand-chose. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre les rênes et de vous poser les bonnes questions pour prendre du recul et analyser la situation de l'intérieur. La première chose importante à faire est déjà d'identifier la situation. Quelle est la situation de départ? Quel est le contexte? Quel est l'élément déclencheur? Je vous propose de prendre un exemple que j'ai d'ailleurs vécu récemment en séance de coaching, d'une personne qui a passé un entretien d'embauche, qui a parfois manqué d'aisance pour répondre à certaines questions. Elle a notamment été déstabilisée par la personne qu'elle avait en face d'elle, et au final, elle n'a pas été retenue pour ce poste. Donc, c'est la situation de départ, donc une personne qui, suite à un entretien d'embauche, n'a pas été retenue. La deuxième chose à faire est d'identifier quelles sont les pensées que vous nourrissez au moment de cette situation. Si je reprends mon exemple, les pensées auraient pu être « c'est de la faute du recruteur, il n'était vraiment pas sympa, il ne m'a pas mise à l'aise » ou alors des pensées qui peuvent être vis-à-vis de vous-même hein, « je suis vraiment nulle, je ne suis pas à l'aise en entretien, je ne sais pas me vendre, je n'y arriverai jamais et de toute façon je n'ai pas le choix, c'est le recruteur qui décide ». En réalité, vous avez un choix à faire dans ce cas précis. Vous pouvez décider de ce que vous allez penser de la situation, de ce que vous allez ressentir et de ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez ruminer le fait que ça ne se soit pas bien passé, ou en tout cas pas comme vous le souhaitiez, et en rester là? Ou est-ce que vous allez chercher à avancer et à progresser? Est-ce que cela est agréable pour vous et est-ce que cela vous est utile d'alimenter des pensées qui sont négatives? Qu'il y a des chances que non. Et dans ce cas, vous pouvez faire le choix de les remplacer par un processus qui va vous mettre en dynamique positive. Et le choix va se faire à ce niveau-là pour vous. C'est là qu'intervient la troisième étape. Donc pour rappel, la première étape est d'identifier la situation de départ. La deuxième étape est d'identifier les pensées négatives ou en tout cas les pensées peu utiles que vous alimentez au sujet de cette situation. Et la troisième étape importante est de remplacer ces pensées négatives par des pensées qui vont vous être plus utiles. Et pour cela, il y a une question fondamentale à se poser, qui est la suivante. Qu'est-ce que cette situation m'apporte de bien? Qu'est-ce que cette situation m'apporte de positif? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Comment je vais en sortir grandi? Qu'est-ce que je comprends sur moi ou sur les autres? Si je reprends mon exemple de départ de l'entretien d'embauche qui n'a pas été concluant, où les pensées pouvaient être à ce moment-là « je ne sais pas me vendre »,« je suis nulle à l'oral », eh bien finalement, je peux penser que cet entretien m'a permis de voir sur quelles questions je me sens moins à l'aise et les questions que je dois préparer davantage pour le prochain entretien par exemple. Donc la situation aura été positive par rapport à ça, elle m'aura permis de comprendre comment mieux me préparer pour un prochain entretien. Si j'alimente des pensées, dans cet exemple toujours, qui pourraient être « j'ai été déstabilisée par le recruteur qui n'était pas aimable » par exemple, cette situation me permet de comprendre de l'importance pour moi d'être entourée de personnes bienveillantes, qu'il est important pour moi de travailler avec des personnes conviviales et dans un environnement serein, ce qui va me permettre à l'avenir d'orienter mes recherches dans ce sens. Alors, l'idée derrière ça n'est bien sûr pas de minimiser la situation ni de la changer. En l'occurrence, dans notre exemple, le fait de mener ce processus de réflexion ne changera pas le résultat, le fait de ne pas avoir été retenu pour le poste dans le cadre de cet entretien d'embauche, mais cela peut permettre de vous relever de la situation et de vous permettre d'avancer. Donc, je vous rappelle juste les trois étapes. La première étape est d'identifier la situation de façon très factuelle. La deuxième étape est d'identifier les pensées qui ne vous sont pas utiles par rapport à cette situation. Et la troisième étape est de remplacer ces pensées par d'autres qui vous sont plus utiles en vous posant la question « qu'est-ce que cela m'apporte de bien et de positif ?» Accordez-vous du temps, parfois vous pourrez le faire tout de suite au moment de la situation et parfois vous aurez besoin de digérer et de mener cette réflexion plutôt à froid. Dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps nécessaire et d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même. Et une fois que vous avez trouvé une réponse à cette situation, si cela vous est utile, vous pouvez ensuite vous poser la question de la mise en action. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Suite à cela, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux progresser? Par quelles actions concrètes cela va passer? Et idéalement, d'être précis dans les actions que vous allez mettre en œuvre et de les dater. Voilà pour cette deuxième partie et pour ce premier épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. En tout cas, pour ma part, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à vous le préparer. Et pour conclure, je souhaitais partager avec vous quelques informations. Donc si vous souhaitez soutenir ce podcast, je vous invite tout simplement à vous abonner sur la plateforme ou l'application de votre choix et à y mettre une note ou un commentaire. Je vous invite vraiment à me faire vos feedbacks car ça me permettra de le faire évoluer selon vos besoins. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans ce podcast, je vous invite vraiment à m'en faire part. Je serai ravie de trouver un invité et une clé qui pourra correspondre une fois de plus à vos besoins. Sachez également que si vous souhaitez approfondir les sujets qui sont abordés dans ce podcast, c'est tout à fait possible au travers d'un coaching. Donc pour avoir plus d'informations au sujet des accompagnements que je propose, ou tout simplement pour avoir mes coordonnées pour me contacter, je vous invite à vous rendre sur le site www.cbcoach.fr. Vous y trouverez l'ensemble des informations et notamment toutes mes coordonnées dans la rubrique « Contact ». Et enfin, pour conclure, je voudrais tout simplement remercier très sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont suivi et soutenu dans cette aventure de podcast et qui en ont permis la réalisation. Donc, tout particulièrement, un grand merci à la société de production 5e saison et particulièrement Alexandre, l'ingénieur du son, qui m'a accompagné dans la phase de démarrage de ce projet, notamment d'un point de vue technique, notamment pour le choix du matériel. Et également un grand merci à tous mes invités qui ont accepté de venir me rejoindre sur ce podcast et qui m'ont fait confiance et qui se sont livrés sans filtre. Vraiment un grand merci à eux et un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet. Et je vous dis merci également à vous de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode et je vous dis à très très bientôt.